Je vais pas aller plus loin maintenant, je vais laisser la parole à notre cher pasteur Alain.
Vous suivez? Et on vit quelque chose de très important pour notre église, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais moi qui suis maintenant à la retraite,
je me rends compte vraiment du privilège que nous avons en tant qu'église de voir ce genre d'appel, ce genre de vocation se vivre au milieu de nous. Il y en a eu d'autres avant eux. Mais je pense que l'Église est faite pour engendrer ce genre de ministère. Et je bénis le Seigneur, déjà dans ce qu'on a vécu avec la famille Dioret, et puis maintenant avec Florence et Denis. Ça fait 44 ans que nous sommes dans le milieu évangélique, et ce qui m'a le plus frappé au travers de toutes ces années, c'est la manière dont Dieu se manifeste, se révèle à des gens qui n'ont humainement aucune chance. Moi, j'étais frappé par le nombre de personnes que j'ai vues sortir vraiment de nulle part pour être établies d'abord dans le Seigneur. C'est incroyable de voir ce que Dieu est capable de faire avec une vie qui lui est consacrée, qui lui est offerte. Et en même temps, c'est impressionnant de voir ce qu'un être humain est capable de faire de lui-même séparé de Dieu. C'est effrayant. C'est effrayant. Ce qu'un être humain est capable de faire, la déchéance dans laquelle il peut tomber, dans la drogue, dans toutes sortes d'abus, d'excès, c'est absolument impressionnant. Mais Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ce qui est perdu. Jésus est venu dans ce but-là, sur cette terre. Il cherche, il sauve ce qui est perdu. Et je peux vous dire que la plus belle chose qui puisse arriver à un être humain, femme, homme, jeune ou moins jeune, c'est de se sentir perdu. C'est de se sentir perdu. Ça va complètement à l'encontre de la mentalité de ce monde. Il faut paraître dans ce monde, quitte à grimper sur la tête de tous ceux qui sont autour de vous. Vous devez être une tête au-dessus de tous. Mais Dieu vient pour sauver les perdus. Et moi, je me souviens de ce moment-là où j'étais surpris. Jamais j'aurais imaginé un seul instant me sentir perdu. J'étais tellement bien. Mais il me manquait tellement beaucoup. Il me semblait avoir tellement. Et pourtant, il me manquait l'essentiel. Et c'est là que Jésus peut entrer en scène. C'est au moment où, oui, je sens que quelque chose ne tourne pas rond dans ma vie, même si tout va bien, ça ne tourne pas dans le sens de Dieu, ça tourne dans mon sens à moi. Et il y a ce magnifique psaume 40 qui dit « Il s'est incliné vers moi ». Si tu te sens perdu, Jésus est prêt à s'incliner vers toi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, pour placer mes pieds sur le roc. Ça, c'est la plus belle expérience qu'un être humain puisse vivre. Psaume 40. Et il y a une chose qui est étonnante, c'est que Dieu, encore une fois, à l'encontre du système humain, de l'esprit de ce monde, Dieu ne méprise pas les faibles commencements. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un nombre incalculable de vies, de personnes qui ont connu un bouleversement à un moment donné ou à un autre de leur vie, que Dieu est venu sauver, et leur vie a pris une dimension invraisemblable, inimaginable. Jamais elle aurait pu penser que Dieu soit capable de la transformer à ce niveau-là, aussi profondément que cela. Il nous ramène à la vie, pas à la vie pour encore mieux vivre dans ce monde, mais à la vie de Dieu telle qu'il l'avait imaginée au commencement. C'est-à-dire que je vais retrouver petit à petit. C'est tout un processus, mais l'image de Dieu dans ma propre vie. Et c'est ça que j'aime. Je n'ai pas envie de ressembler à un tel ou un tel. J'ai envie de ressembler à ce Dieu qui est venu me chercher et qui est venu me sauver. Rappelez-vous Abraham, qui était dans l'idolâtrie avec sa famille là-bas. À Joseph, qui était perdu en Égypte, séparé de sa famille. Se retrouvant à un moment donné même dans une prison alors qu'il avait fait tout juste le pauvre. On pense à Moïse qui était un meurtrier quand même, c'est pas n'importe quoi. On pense à Gédéon qui se sentait le plus pauvre, le plus petit de sa famille, qui était capable de rien du tout. On pense à Paul qui, à un moment donné, dit, malgré toute sa connaissance, malgré la haute école théologique de... Il dit, misérable que je suis, cette fois je suis perdu. Eh bien, c'est là que ça a commencé. C'est là que Dieu peut enfin commencer une œuvre. Ben, comme on l'a chanté tout au début, il attend ce moment de pouvoir non seulement nous aimer, mais de commencer un processus de vie incroyable en nous. Et Jésus a dit lui-même dans le psaume 22, hein, parce que c'est une prophétie du psaume de ce que Jésus va vivre, « Je ne suis qu'un ver. » Waouh ! « Je ne suis qu'un ver. » Mais on a vu ce que ce ver est devenu, n'est-ce pas ? Donc, sauver signifie être rétabli dans son être tout entier, corps, âme et esprit. Ça, c'est vraiment l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et cela prend du temps, bien sûr. C'est un processus qui s'enclenche à un moment donné, mais qui est irréversible, à moins que je me détourne de Dieu définitivement. Mais c'est un processus irréversible. Et il y a là derrière une intention très précise de Dieu. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux que Dieu est un sage architecte. Qu'est-ce qui fait un sage architecte ? Il commence par les fondations et il va aussi profond que possible. Nous, on ne sait pas tout ce qu'il y a dans les profondeurs de notre terre, n'est-ce pas ? Mais l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, nos petites profondeurs à nous, hein, ce n'est pas grand-chose. Et il va aller jusqu'au bout pour transformer, pour enlever, pour guérir ces profondeurs. Et ensuite, il y a une intention de Dieu. Il est dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12 que Dieu, d'abord dans Acte, il est dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc Dieu a prévu un endroit spécifique où il a envie d'envoyer les sauvés. Ou en tout cas ceux qui ne le sont pas encore tout à fait, leur dire, écoutez, il y a un endroit là où vous allez entendre parler de moi. Mais quand Dieu ajoute à l'Église, Dieu a encore des projets invraisemblables pour nos vies. Dieu va placer, 12-18. Dieu va disposer, 12-24. Dieu va établir, 12-28. Vous voyez, tout le travail que Dieu désire faire. Alors, si tu es sauvé, c'est magnifique. Mais imagine ce matin que Dieu a tellement plus en réserve pour toi. Il a déjà des projets d'avance. Il a des choses dans lesquelles tu voulais entrer. Si on m'avait dit il y a 42 ans en arrière, Alain, tu partiras, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais tu vas partir à Fribourg, ouvrir une église, vivre en communauté, tu vas arriver. J'aurais dit non, stop, mais moi, je n'en suis pas capable. Mais lorsque Dieu se manifeste, il se manifeste et accomplit son œuvre. Mais il le fait dans l'église. Et j'aimerais que vous puissiez prendre conscience ce matin de la richesse de l'église. On a encore vu quelques effets dimanche passé. On vous remerciera à la fin parce que c'était trop, quoi. Moi, j'étais submergé par des vagues. Mais je me disais, mais ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. Même imparfaite. Il n'y a pas d'alternative à l'Église dans ce monde. Dieu croit en l'Église parce qu'il croit aux gens qu'il va placer dans l'Église. Il sait ce qu'il peut en faire. Nous, on ne voit pas toujours. Nous, on est là un peu critique. On est un petit peu dans le jugement. On est un petit peu en arrière-plan. On essaye de... Non. Dieu voit, il dit, waouh, toi, je peux faire quelque chose avec toi. Toi, je peux faire quelque chose. Il n'y a personne qui passe entre les mailles du filet. L'Église est le lieu que Jésus a créé en donnant sa vie et dans laquelle il va pouvoir accomplir son œuvre. Donc, on voit que dans l'Esprit de Dieu, c'est complètement différent que dans l'Esprit du monde. Hein? Dans la suite de ce passage d'un Corinthien, il est dit que les plus faibles sont nécessaires, que les moins honorables sont nécessaires, que les moins décents, dans le monde, quelqu'un qui n'est pas décent, hop, de côté. Quelqu'un qui n'est pas honorable, hop, de côté. Les faibles, on n'a pas dans l'Église. Et pour moi, c'est une sorte d'aboutissement de voir que l'Église est capable de générer des ministères. C'est quelque chose d'extraordinaire. On donne la vie. On génère au travers de nos messages, au travers de notre vie, au travers de qui on est, on génère des choses qui vont être reçues et qui vont à leur tour produire le fruit dans la vie de chacun. Donc j'aimerais terminer ce petit moment en disant que si aujourd'hui nous pouvons établir deux anciens, c'est parce que vous êtes là, c'est parce que nous avons été avec eux aussi, qu'ils ont pu apprendre, s'entraîner, découvrir en eux-mêmes ce que Dieu avait placé, parfois dans la difficulté, parfois dans le conflit, parfois dans le doute. Si vous saviez le nombre de doutes que j'ai eus tout au long de mon ministère, et puis on sent la main de Dieu qui vient. Waouh, comment vous me dites, t'en fais pas, je suis là, arrête de bégayer, arrête d'avoir peur, arrête de te mettre en retrait, arrête d'imaginer, de faire tes scénarios catastrophes. Tu veux un petit mur des lamentations, vas-y, construis-le. Je serai avec toi dans tes lamentations. Non, mais c'est ça, on ne se rend pas compte. Et c'est là qu'on voit combien on a besoin encore d'évoluer dans notre mentalité nouvelle, dans notre vision nouvelle, dans notre esprit nouveau, dans notre cœur nouveau. On ne comprend pas vraiment Dieu, tellement son amour est grand. Mais au fur et à mesure qu'on comprend, on va de l'avant. Donc aujourd'hui, si on établit deux anciens, c'est parce qu'on a discerné en eux, au travers des années. Florence, ça fait depuis 1996 que je suis arrivé, que j'ai vu que voilà, il y avait quelque chose potentiellement qui était là, et puis petit à petit, les choses, hein, comme une petite plante qui commence de pousser, on se dit, waouh, combien de centimètres, puis après, combien de mètres peut-être, et voilà. Et j'ai vu Florence s'épanouir au travers des années, entrer dans, voilà, il y a des temps de Dieu aussi, et y entrer vraiment et faire confiance à Dieu pour la suite. Et puis Denis, je l'ai connu il y a aussi pas mal d'années en arrière, quand il faisait ses enregistrements à Orvin, et puis que moi j'allais avec ma librairie, l'Arc-en-Ciel à Vienne, les week-ends, on s'est connus là. Puis après on s'est retrouvés ici à la Chaux-de-Fonds, et puis j'ai vu dans Denis un homme qui aime l'Église aussi, qui aime prier avec sa femme Monique. Et ça, je peux vous dire que ce sont des trésors dans l'Église. Quand un pasteur peut s'appuyer sur quelqu'un qui est rectiligne et qui prie, je peux vous dire, ça dure. C'est du solide. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors voilà, ce matin, on va vivre ce moment qui, pour moi, est un petit peu la cerise sur le gâteau, comme on dit en général, parce que je peux arrêter, entre guillemets, mon ministère au sein même de l'Église, mais en sachant qu'il y a la relève, et puis qu'ensuite, il y a une bonne équipe là, au conseil, avec des anciens, des hommes et des femmes qui vous aiment, qui prient beaucoup pour vous, qui sont consacrés, qui persévèrent, qui ont l'amour de l'Église. Et ça, j'aimerais que vous l'entendiez. C'est une chose de venir à l'Église. C'est une chose d'aimer son voisin de gauche ou de droite, d'avoir des bons comptes. C'est bien déjà, hein? Mais l'amour de l'Église, c'est être en permanence en train d'y penser, en train de prier, en train d'imaginer des choses, en train de partager avec les autres membres du conseil, de dire qu'est-ce qui est bon pour l'Église, qu'est-ce que l'Église a besoin. C'est un fardeau doux et léger quand ça vient de Dieu. Il ne faut pas essayer de se le mettre sur les épaules d'une manière artificielle. Mais quand c'est là, je peux vous dire, ça fait du bien. Et ça fait du bien à ceux qui le reçoivent, ça fait du bien à ceux qui vont le vivre, donc vous, l'Église. Et j'aimerais vraiment que vous les aidiez à grandir dans leur ministère. Hein. De temps en temps, vous leur faites un petit croche-pied pour voir si... Mais vous soyez gentils avec eux, hein. Il faut qu'ils soient mis à l'épreuve, hein. Donc vous pouvez leur préparer quelques petits, une petite surprise, mais priez aussi pour eux, pour qu'ils puissent continuer de grandir et de servir l'Église. Amen. Amen.